Les urgences pètent de partout. Il y avait encore un reportage ce matin au sujet de l'urgence du CHUL là, qui explose. L'explication, c'est que semble être que les cliniques médicales n'acceptent pas les cas de gens qui ont des symptômes qui pourraient être des symptômes de COVID. Et comme les centres de détection de la COVID ferment progressivement, notamment parce qu'on manque de monde, puis on prend le monde pour vacciner on prend les gens de la santé pour aller vacciner le monde au lieu de les tester. Bon, le résultat, c'est que les gens qui ne peuvent pas se faire détecter rapidement et qui en plus ont des symptômes se présentent à l'urgence de façon ambulatoire. Sauf que tout ça, ça fait des attentes qui sont interminables. On parlait dans le cas de l'hôpital de Québec de 3 heures d'attente avant le triage. Avant qu'une infirmière détermine si vous êtes pressant ou pas, 3 heures à attendre. Fait que si vous êtes pressant, vous êtes mort. ou à peu près.
Bon. Ouais, puis ma sœur est allée, puis elle a vu un bébé, et une mère et son bébé, et ça faisait 8 heures qu'il était là, même pas encore passé, là, c'est l'attente.
La réaction du gouvernement ce matin, ça a été de dire aux cliniques de médecine familiale, garde, là, vous allez accepter les gens qui ont des symptômes de COVID. Donc, vous allez arrêter de refouler les gens qui se présentent avec une toux, avec un rhume, avec...
C'est une diarrhée, Myriam, ouais. C'est ridicule, là. Ouais. Il y a tellement de symptômes à la COVID, là. Tu peux perdre le goût quasiment, puis c'est juste parce que t'as les sinus bouchés, puis à l'urgence, ils vont penser que c'est un symptôme COVID.
Alors ça, maintenant, depuis ce matin, le ministère de la Santé semble avoir demandé au GMF, au groupe de médecine familiale, d'arrêter ça. Est-ce que ça va régler le problème? Est-ce que les médecins omnipraticiens qui sont dans les cliniques de médecine familiale sont capables de prendre le flot de gens qui s'en allaient à l'urgence? Le docteur Marc-André Amiot est vice-président de la Fédération des médecins omnipraticiens et médecin de famille, et également médecin d'urgence à Joliette. Bonjour.
Bonjour.
Alors, est-ce que c'est la solution pour vous que de dire au groupe de médecine familiale, garde les gens qui ont des symptômes de COVID, prenez-les?
D'abord, les cliniques CDE, qui sont les cliniques désignées d'évaluation, parce qu'il y a les cliniques de dépistage, mais il y a les cliniques désignées d'évaluation, et ça, ce sont des cliniques où il y a des médecins qui travaillent là, parce que on a eu des directives de la santé publique, rappelez-vous, là, il y a plusieurs mois, en mars 2020, qui ne fallait pas voir les patients qui avaient des symptômes qui pouvaient s'apparenter à la COVID, la fièvre, la température, etc. Là, il y a une panoplie de symptômes. Donc, ces patients-là étaient référés dans ces cliniques-là. Ces cliniques-là, elles ne sont pas encore fermées. Elles sont encore en fonction. Il y a encore des médecins qui travaillent dans ces cliniques-là. Et elles planifient, par exemple, on planifie les fermer en septembre 2021, donc dans quelques semaines. Et à l'heure actuelle, on peut commencer à voir certains patients qui ont des symptômes mineurs dans les GMS. Est-ce que ça va solutionner le problème des urgences? Est-ce que c'est entièrement ça le problème des urgences? Sachez que, je vous confirme, ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que parce que les GMS ne voient pas cette catégorie de patients-là. En passant, avant la COVID, on les voyait, ces patients-là. Et on a juste hâte de revenir à la normale, de pouvoir fermer ces CDE-là, de rapatrier ces docteurs-là, parce que ce sont les mêmes docteurs qui travaillent dans les GMS, dans le sans-rendez-vous, qui travaillent aussi dans les CDE. Là, on ne peut pas dupliquer les docteurs.
Dans les CDE, dans la région de Québec, il paraît qu'il n'y en a plus rien qu'un qui fonctionne pour de vrai et que c'est 3 jours d'attente. Alors, si vous êtes malade, que vous avez un enfant qui est malade, vous attendrez pas 3 jours. Vous allez vous ramasser à l'urgence.
Mais là, j'ai pas l'information exacte pour Québec, mais je peux vous dire que ces cliniques-là, ailleurs, partout dans la province, il n'y a pas eu d'indication qu'on devait les fermer. Et vous avez raison, là. Les GMF peuvent commencer à voir certains patients là, qui ont le nez qui coule, qui ont eu 2 doses de vaccin, qui ont eu un test COVID négatif dans les 7 derniers jours. Peu importe les symptômes, là, on peut les voir s'ils répondent à ces critères-là. Mais, encore une fois, nous, on suit les directives de la santé publique. Et c'est ça qui est important, là. Quand la santé publique va nous dire, parfait, vous les voyez tous dans vos GMS, ça va nous faire plaisir de les voir dans les GMS. Il va falloir une petite période d'adaptation, là, parce qu'on a des mesures sanitaires à mettre en place dans les GMF pour recevoir cette clientèle-là, notamment peut-être de faire attendre ces patients-là dans une zone désignée de la salle d'attente ou de faire attendre ces patients-là dans leur voiture, les voir en fin de journée. Donc, tout ça est à mettre en place là, dans les GMF, mais on s'active actuellement pour recevoir cette clientèle-là au plus tard, au début septembre.
Au début septembre, mais là, pour l'instant, les urgences ont l'air de craquer de tous bords, de tous côtés.
Effectivement, je travaillais à l'urgence en fin de semaine dernière, là, puis on avait un flot de consultations très important, puis je vous signale à ce moment-ci que ce ne sont pas seulement des patients avec des symptômes COVID qui auraient pu être vus dans les CDE ou dans les GMS, là. On parle de traumatisme, d'abrasion cornéenne. La population a recommencé à s'activer. Donc, on voit des blessures, on voit des accidents de travail, etc. Là. Ce ne sont pas que des problèmes reliés à la COVID ou ayant des symptômes qui s'apparentent à la COVID là, qui surchargent les salles d'urgence.
Est-ce qu'il est possible...
C'est banaliser la problématique là, que d'attribuer seulement à cette situation-là.
Est-ce que, moi je dis tout le temps à mes fils, tout ce que tu pèles par en avant devient une montagne. Est-ce qu'il est possible qu'en se concentrant uniquement sur la COVID, on ait créé une montagne qu'on n'arrivera pas à pelleter?
Ah non, on va arriver à la pelleter. Est-ce qu'on a créé une montagne? On a créé définitivement des retards, que ce soit en chirurgie, que ce soit dans la prise en charge, là, mais... On va réussir à la pelleter, mais on peut pas réussir à la pelleter, comme vous dites, pour les deux prochaines semaines. Ça va prendre un certain temps avant de se rétablir comme société, comme système de santé de cette pandémie-là.
Pour régler le problème des urgences, parce qu'il y a deux volets aux urgences. Il y a les gens qui arrivent sur leurs deux pattes, qui ont besoin d'une consultation, qui bien souvent ont bien plus besoin de voir un médecin que d'être à l'urgence, là. Et ça, le gouvernement a l'air de dire, les GMF vont s'en occuper. Là, vous me dites, ils vont avoir de la misère à s'en occuper efficacement avant le début septembre. Puis il y a l'autre volet, qui est les gens dont on estime qu'ils sont en situation assez grave pour les garder à l'hôpital, puis là, on n'a pas de place pour les caser sur les étages.
Mais il y a aussi le manque de personnel. Pour le volet 2 auquel vous faites référence, là, il y a la pénurie de personnel, d'infirmières, inhalothérapeutes, etc. Là, puis je vous apprends rien en disant qu'il y a des fermetures de lits et d'urgence, même de salles d'urgence un peu partout au Québec. Ce phénomène-là, il est beaucoup lié à la pénurie de personnel. Je veux revenir sur le volet 1 en disant on sera pas capable de les voir. On est tout à fait capable de les voir, ces patients-là. Là. Ce sont les mêmes docteurs, comme je vous disais, là, ce sont les mêmes docteurs qui travaillent dans les UMS et dans les CDE. Et ce qu'on dit par rapport aux patients qui se présentent à l'urgence, qui pourraient être vus dans les cliniques, ce qu'on appelle des P4, P5, c'est une mauvaise terminologie parce que ce sont pas tous les P4, P5 à l'urgence qui peuvent être relocalisés ou référés dans les GMF. Là, ça prend certains critères. Là, mais il y a un effort actuellement qui est mis partout au Québec justement pour relocaliser ces patients-là. Donc, le patient se présente à l'urgence parce qu'il n'a pas essayé d'aller au GMS, parce qu'il n'y a pas eu de place, peu importe. Bien, ces patients-là vont être réorientés vers le bon service qui est la clinique sans rendez-vous ou le GMF en question si le patient a un médecin de famille.
OK, mais si souvent, le patient, quand il arrive à l'urgence, c'est parce que son GMF n'a pas répondu.
Là-dessus, je mettrais un bémol. Pour y travailler à l'urgence, là, il y a certains patients, puis je dis pas que vous avez tort, pour certains patients, vous avez raison. Puis, ce ne sont pas tous les médecins qui sont en GMS, et les médecins ne travaillent pas 16 jours par semaine. Non. Cependant, en GMS, c'est justement une pratique de groupe qui permet de remplacer nos collègues quand ils sont pas là. Donc, d'une part, oui, il y a les patients qui n'ont pas eu accès, mais il y a un certain nombre de patients aussi qui se présentent à l'urgence qui n'ont pas essayé de venir ou qui croyaient que c'était urgent ou qui avaient des inquiétudes particulières. Puis parce que là, ils ont vu l'infirmier ou l'infirmière au triage, qui a fait un triage, et puis là, il lui a offert une place de rendez-vous le lendemain dans son GMF ou dans une clinique sans rendez-vous d'un GMF réseau, ben il va pouvoir être réorienté vers le bon service.
Le GMF, qui est le groupe de médecine familiale, qui est une clinique médicale, dans le fond, là, on a inventé un nom un peu compliqué pour une clinique médicale, là. Actuellement, les médecins sont en vacances? Parce que j'imagine que les médecins se sont dit, bon, ben, regarde, on peut pas pratiquer comme d'habitude. On va attendre de pouvoir pratiquer comme d'habitude, mais on va prendre des vacances comme tout le monde?
Je peux parler pour mon GMF. Là, je suis au GMF dans la région de la Naudière aujourd'hui. Là, il n'y a pas beaucoup de docteurs en vacances. Puis quand j'étais à l'urgence en fin de semaine, il n'y a pas beaucoup de collègues qui travaillent à l'urgence qui sont en vacances actuellement. Faut noter que il y a peut-être pas autant d'activités à faire qu'on l'aurait souhaité là en vacances. Mais ceci étant dit, ce ne sont pas les vacances à l'heure actuelle qui limitent l'accessibilité.
Alors, qu'est-ce qui fait qu'on craque de partout, docteur, grand Dieu? Vous me dites que les docteurs sont à l'ouvrage, puis ça marche pas 3 heures d'attente pour passer au triage.
Effectivement, là, mais la pénurie de personnel, là, elle est importante. Si habituellement, ça prenait 2 ou 3 infirmières au triage et que là, il y en a seulement 1 ou 2, ben, il peut y avoir des délais supplémentaires. Bon, et je vous rappellerai aussi qu'il y a une pénurie importante de médecins de famille au Québec. Et ce qui est le plus désolant dans tout ça, c'est cette année, il y a 70 postes de résidence en médecine familiale au Québec qui n'ont pas été comblés, qui sont restés vides.
Parce que c'est plus payant de devenir spécialiste?
Parce qu'il y a beaucoup de contraintes associées à la médecine familiale. C'est difficile, la médecine familiale. C'est de plus en plus difficile. Il y a beaucoup de contraintes. Il y a 30 étudiants en médecine qui ont terminé leur résidence, leur cours de médecine, qui sont allés faire leur résidence en médecine familiale ailleurs au Canada. Ça aussi, là, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu avant. Donc ça, c'est extrêmement préoccupant. La relève est difficile à trouver. Les postes sont difficiles à combler. Puis la pénurie est importante. Et ça, là, faut travailler là-dessus. Il faut rendre la médecine familiale attractive. Il faut supporter les médecins dans leur travail. Vous savez, dans les GMF, là, on a perdu nos infirmières parce qu'ils ont été délestés dans des secteurs où on faisait des prélèvements COVID, la vaccination, les cliniques CDE. Il y en a certaines qui ont été délestées dans les établissements de santé. On a perdu ces infirmières-là. Donc, tout ce support-là, là, est important pour nous, est important pour offrir le service.
Vous n'avez pas de solution, si je comprends bien.
Ben, il y a des solutions, oui. Certaines solutions, bien sûr, là. Il faut rapatrier le personnel dans les GMF pour nous aider à reprendre les activités normales. Il faut s'assurer qu'on forme suffisamment de médecins de famille. Mais ça, c'est une solution à moyen-long terme, mais il faut y penser maintenant. Est-ce qu'on peut y penser maintenant à s'assurer qu'on ait des effectifs en nombre suffisant? Puis après ça, ben il faut supporter les médecins de famille. Il faut rendre la pratique médicale intéressante. Puis là, je pourrais
donner des docteur, exemples. Avec les salaires que les médecins font de nos jours, là, jamais je croirais que c'est pas attractif.
Non, mais puis en passant, c'est plus une question de salaire, là. C'est plus une question de salaire du tout. C'est une question de conditions de pratique, là. Puis ça, je vous remercie de poser la question puis de me permettre de le préciser, là. C'est plus du tout une question de salaire. C'est vraiment une question de conditions de pratique. Je pourrais vous donner des exemples, là, à n'en plus finir, là. On suit des patients avec des problématiques de santé mentale. On voudrait du support du CLSC, des établissements pour faire voir ces patients-là, pour nous supporter et régulièrement là on se fait refuser l'accès à nos patients. Le dernier en liste là, puis je vous donne un exemple tout à fait personnel, la patiente est déprimée, un trouble du déficit de l'attention, est en arrêt de travail et médicamentée. Je lui demande du support par un psychologue du CLSC et on me répond, on a discuté avec la patiente, elle consomme du cannabis, elle ne veut pas arrêter, donc on ne peut pas la suivre en santé mentale. Ben, je regrette, là, mais me faire répondre des absurdités comme ça, c'est au détriment des patients. Vous savez, nous, on est là
pour les faire une alliance avec les. Vous devriez faire une alliance avec les policiers qui se plaignent aussi qu'ils amènent des patients dans des hôpitaux, puis que la première chose qu'ils savent, c'est que le patient, il se retrouve dehors, puis le policier doit jouer les travailleurs sociaux.
Mais je vous donne juste un exemple. On pourrait des exemples comme ça, là, je pourrais vous en sortir toute l'après-midi, là, dans différents secteurs d'activité, okay. Mais la santé mentale étant le principal secteur. Il manque, j'imagine qu'il manque de ressources. C'est pas parce qu'ils veulent nous refuser puis ça leur fait plaisir de nous refuser des patients. J'imagine qu'il manque de ressources. Mais vous savez, là, nous, le patient, là, si j'ai pas de ressources pour l'aider, ben, on est limité, là. On est vraiment limité. Puis je continue de le revoir, puis je continue de le suivre, puis j'essaie de le supporter du mieux que je peux. Mais je peux pas tout faire dans le réseau de la santé. J'ai besoin de support. Mes médecins ont besoin de support pour les aider à effectuer leur travail puis donner les services. Ils veulent donner des bons services à la population. Ils veulent donner de l'accessibilité. Mais aidez-nous à donner ce service-là de façon adéquate et professionnelle.
Merci beaucoup, Dr. Amiot.
Ça me fait plaisir.
Au revoir. Le Dr. Marc-André Amiot est vice-président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, médecin de famille et médecin d'urgence dans la région de Joliette. On n'est pas sorti du bois, hein?
Donc, les médecins sont épuisés, là, Myriam.
Mais tu l'entends?
Oui.
Puis c'est drôle parce que ce dont il se plaint, c'est la même chose dont se plaignent les policiers. Les policiers disent, on arrête quelqu'un qui est désorganisé sur la rue, on l'amène à l'urgence, pas capable de voir un psychiatre efficacement, pouf, le gars, il est de nouveau dehors 24 heures plus tard, puis il refait du trouble.
Ben, c'est parce qu'ils doivent choisir leur monde, ils n'ont pas assez de personnes pour les traiter.
Dans l'exemple qu'il donne, il y a quelqu'un qui dit, ouais, mais quelqu'un a le droit de refuser un traitement, c'est parce que la personne dont il parlait consommait du cannabis et au CLSC, on refusait de la laisser voir un psychologue si elle ne s'engageait pas à arrêter de consommer du cannabis.
Ben, elle a besoin d'aide pour arrêter de consommer son cannabis.
C'est ça. C'est la poule et l'œuf.
Ah, oh boy.
Encore que c'est plus clair pour la poule et l'œuf que pour ça. Oui. Qu'est-ce qui est arrivé en premier? La poule ou l'œuf?
Forcément la poule.
Pourquoi?
Ben, je veux pas.
OK. Qu'est-ce qui est arrivé en premier, la poule
moi,
ou l'œuf?
Je pense l'œuf, là. La théorie de l'évolution. L'œuf est plus petit que la poule. Je sais pas.
Alexandre, la poule ou l'œuf?
La poule ou l'œuf?
La réponse est évidente.
C'est la poule aux œufs d'or qui est arrivée en premier.
Ouais, moi, je disais l'enveloppe, mais...
non, c'est l'œuf.
La poule ou l'œuf. Moi, j'aurais dit la poule.
Alors, c'est l'œuf, mais pas pour la raison que tu dis. Parce que les dinosaures faisaient des œufs bien avant qu'il y ait des poules.
Ah ouais?
Ben oui.
Donc, forcément, l'œuf.
Donc, l'œuf est arrivé avant la poule.
Ouais. Pas l'œuf de poule, nécessairement, mais l'œuf.
Ça faisait partie d'un jeu de société qui avait des énigmes dedans. C'était une des énigmes qu'il posait.
J'ai tout dérapé.